Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà. Alors, nous allons ouvrir à nouveau l'Épître aux Romains. C'est un véritable monument de théologie. Le salut, la foi, ce que nous sommes, nous les hommes, les chrétiens. Alors, je vous invite à prendre Romains chapitre 14 et à partir du verset 10. Ce n'est qu'une suite de ce que nous avons vu il y a une quinzaine de jours. Et il y a matière à être enseignée à travers bien cet épître et puis à travers ces paragraphes 14 et 15. Alors, donc, Romains chapitre 14, verset 10. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit précédemment. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère et toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi, donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Voilà pour lecture qui va nous conduire dans notre réflexion ce matin, et je pense que si nous nous posons la question comment faire l'unité, comment faire la paix dans une église, eh bien nous avons la réponse. Voilà. Et au cœur de tout cela, il y a non pas seulement la bienveillance, le respect, mais la charité et l'amour pour notre frère et notre sœur. C'est-à-dire qu'il passe avant moi. Il va passer avant moi, je veux lui donner la priorité. Et c'est vrai que c'est un challenge. Il faut dire que c'est pas évident. C'est pas évident pour des raisons que nous allons voir. Je voudrais rappeler quelques principes de tolérance évangélique, c'est-à-dire que ça concerne l'Église, mais ça concerne aussi nous, qui sommes des témoins de Jésus, de donner un exemple aussi à l'extérieur. Mais bon, on va rester dans le contexte de la communauté de l'Église, et il y a des principes d'accueil, de tolérance. Il y a deux sortes de conscience chrétienne, deux sortes. Avec des frères et des sœurs qui sont autant convertis que je ne le suis. Des frères et des sœurs qui croient en Jésus-Christ, qui ont naturellement passé par l'expérience de la nouvelle naissance, et bien avant, naturellement, repentance et tout le reste. Deux sortes de conscience. Il y a les chrétiens que l'on pourrait nommer les chrétiens forts. Ouais, voilà. Chrétiens forts et les chrétiens faibles. Alors, je mets un petit bémol, parce que c'est quelque chose d'assez subtil, c'est qu'il y a des forts, qui sont plus faibles qu'on le pense, qui sont très faibles même, et il y a des chrétiens faibles qui quelquefois dans des circonstances sont très forts. Alors c'est pour ça que il faut pas radicaliser, mais on va quand même découvrir le caractère de l'un et de l'autre. Et c'est ce que nous entendons dans l'Épître aux Philippiens quand Paul dira, pour une autre raison, mais qui peut être appropriée à ce que nous disons ce matin, « Si quelqu'un est d'un autre avis, » alors on n'est pas tous d'accord, hein. Dans l'essentiel, oui. Dans le fond, Jésus-Christ est notre Sauveur, il a pardonné nos péchés, il est mort pour nous, voilà, il est ressuscité, il revient, et puis bien d'autres choses comme ça. Mais si quelqu'un dans le peuple de Dieu, dans une communauté, est d'un autre avis, vous savez ce qu'il est dit ? Eh bien, c'est Dieu qui va l'éclairer, c'est pas moi. Une petite subtilité. Maintenant, peut-être que Dieu aussi va me conduire, mais par l'esprit et non pas par la chair, à entourer mon frère. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que Dieu va me montrer qu'il faut prier pour lui. S'il est faible, s'il est trop fort, qu'il se calme. S'il est trop faible, faut qu'il prenne des forces. Mais si quelqu'un est d'un autre avis, eh bien, Dieu l'éclairera. Ça, c'est un principe. Et puis, je voudrais également faire un rappel de trois règles élémentaires et impératifs. Il n'y a pas de moyen terme. Elles sont élémentaires, c'est la moindre des choses quand on est chrétien. Je pense qu'on ne peut pas penser autrement. Et c'est impératif, il n'y a pas de contournement possible. C'est d'abord accueillir. Quelquefois, on peut avoir des réticences à accueillir, pour différentes raisons. Qui quelquefois peut être juste, mais quelquefois peut être injuste. Et on se trompe quelquefois dans ce que nous pensons, et on peut se tromper. Et naturellement, ça nous fait dire que les disputes d'opinion sont à proscrire. Voilà. Accueillez celui qui est faible, ne discutez pas les opinions. On peut le dire, on peut le rappeler. Et il y a dans ces trois règles, la deuxième et la troisième, c'est de ne pas juger et de ne pas mépriser. Alors quand je dis ne pas juger, Jésus nous donne aussi le principe, et il faut le rappeler, c'est très très simple ce matin. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. Les apparences, elles vont nous apparaître immédiates et on va en tirer des conclusions. C'est pas trop difficile, on le voit, on l'entend, on sait. Voilà, c'est quelque chose de très physique, on pourrait dire. Je juge selon les apparences. Mais juger selon la vérité, ça demande peut-être un peu plus de temps. Ça demande un peu plus d'effort. Ça demande surtout un peu plus de spiritualité de notre part. Donc, je rappelle, accueillir, ne pas juger, ne pas mépriser. Je voudrais faire une observation maintenant pour bien comprendre le mécanisme, parce que ça nous concerne, hein, c'est pas lui, et moi j'en suis... c'est tous dans notre ensemble. Je voudrais simplement vous dire que les forts, les chrétiens forts, ont la fâcheuse tendance à mépriser le faible. Mais il faut aussi, en écho, entendre que celui qui est debout, celui qui est fort, qu'il fasse bien attention de ne pas tomber. Parce que il a l'air d'être à l'aise dans tous les domaines, mais qu'il fasse gaffe, qu'il fasse attention. Voilà. Par contre, les faibles, le chrétien faible qui a des scrupules, qui se dit « moi je peux pas faire ceci et cela, et puis j'ai peur que Dieu me juge, j'ai peur de ceci et cela », bon, le fort semblerait qu'il n'ait pas peur de grand-chose, enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas tomber, hein. Et puis l'autre, il a peur de tout, on pourrait peut-être le présenter. Les faibles, et la tendance fâcheuse des faibles, c'est à juger les forts, parce que ils se disent, les faibles, en voyant les forts, eh bien, ah, ils sont pas spirituels ceux-là, hein. C'est sûr qu'ils sont pas spirituels, c'est ce qu'ils pensent. Et en plus, il est juge de péché, parce qu'ils ne pourraient pas faire ce que les forts font, alors ils disent, mais ils pêchent, et commencent à juger. Il y a, après tout cela, trois raisons de modération. L'Église est une communauté humaine chrétienne, mais qui doit se caractériser par son équilibre. Jésus est l'exemple parfait de l'équilibre. On est dans un monde d'extrême. Dans un sens, dans un autre, et que ce soit dans la vie sociale, la vie politique, la vie religieuse, la vie spirituelle aussi, hein. Ça ne fait pas, on est sur terre, on est des hommes, hein. Alors, dans ces trois raisons de modération, écoutons bien. Dieu a accueilli le faible autant que les forts. On le sait. L'un comme l'autre, ils agissent en conscience devant Dieu. Si je fais ceci en toute liberté qui est la mienne, je le fais devant Dieu. Si le faible, il s'abstient de ne pas faire ceci, il le fait en conscience. Il semblerait que la conscience soit vraiment la boussole, hein, qui soit là naturellement. Et nous nous apercevons que les uns et les autres le font devant le Seigneur. Mais la liberté a ses limites. On peut pas tout faire. On peut faire beaucoup de choses dont on est conscient que ce n'est pas mal, ce n'est pas péché, mais il y a des limites, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause des autres. Tout simplement. Parce que Dieu seul est juge dans cette affaire. Et on sait qu'une toute petite partie, nous on a des yeux fermés, on a des yeux qui sont quelque part voilés, il y a de l'opacité, Dieu connaît tout. Il connaît les motivations, il connaît les raisons de ceci et cela, les tenants et les aboutissants. Mais nous, on a vraiment besoin de lunettes spirituelles, hein, on peut dire ça. Dieu est sage et nous ne le sommes pas. C'est ce qui fait les conflits entre les hommes, de toute façon. Parce qu'il y a une menace. C'est devant ce que je fais ou je ne fais pas, et pourquoi je le fais ou pourquoi je ne le fais pas, c'est qu'il y a la critique qui est facile. C'est facile, hein, de critiquer. Eh oui, on peut toujours dire, ben oui, mais il n'est pas comme moi, mais la norme, c'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Et en interprétant sa parole avec la lumière du Saint-Esprit, parce qu'on a fait dire des choses à la parole de Dieu, on a fait des décrets, des lois, des commandements, des préceptes, enfin bon, on a encarté tout ça en disant, ben attendez, c'est ni à droite ni à gauche, hein, c'est comme ça. Alors moi, je veux bien que ce soit comme ça et je ne discuterai jamais la véracité de la parole de Dieu, mais il y a quand même une nécessité absolue, c'est quand même que nous soyons éclairés et conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'autrement, on devient des intégristes. Ah, on le voit là, hein. On le voit. Tu es pour Dieu ou tu es pour Allah ou tu es pour je ne sais quoi, on peut pas dire que c'est quand même de la charité débordante. Mais c'est ce qui s'est passé, hein. Quiconque vous mettra à mort, dira Jésus. Ils croiront rendre un culte à Dieu. Quelle horreur! Quelle monstruosité! Que des gens qui étaient croyants, les juifs en l'occurrence, et puis tous les autres qui ont suivi et qui, enfin voilà, qui sont encore là au milieu de nous, vous rendez compte une chose? Comment on peut concevoir les choses? Donc la critique fait facile, et ça amène, d'une manière très subtile, hein, dans l'œuvre de Dieu, voire même dans les familles, dans les amis, etc., le levain de la division. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. La leçon que nous allons poursuivre aujourd'hui porte sur des questions non essentielles au salut. On est d'accord. On va pas discuter parce que, voilà, pour être sauvé, ceci et cela, mais ça c'est le fond. Et on va pas discuter là-dessus. On va pas remettre en cause les doctrines fondamentales du salut. Paul parlera du baptême, de ceci et cela. Non, on va pas remettre en doute tout ça. Par exemple, le fait de manger, ça rentre pas dans la dimension du salut, hein. Ça c'est sûr. Et je relis par exemple, il est dit ceci, mais je vais prendre mon temps, hein, si vous permettez. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et puis il est dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Bon, c'est un petit résumé de tout ce que nous avons dû jusqu'ici. Il y a également les traditions. Dans le monde chrétien, tradition calendaire, c'est ce que nous avions dit, hein. Alors, les juifs étaient très cadrés sur les nouvelles lunes, les sabbats, etc., etc. On pourrait dire aussi, dans l'église traditionnelle chrétienne, on pourrait dire, eh bien voilà, les saints, tel jour à observer, etc. C'est exactement la même chose, hein. On n'a rien inventé, de toute façon. Alors, les traditions. Dans les traditions, eh bien, on peut lire le verset 6, parce que ça va nous rappeler, pour nous imprégner bien de ce que sont les forts et les faibles. Il est dit ceci, au verset 5, « Tel fait la distinction entre les jours, tel autre les estime égaux, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, sabbat pour les uns, dimanche pour les chrétiens, etc., etc. Pour les musulmans également, on pourrait dire. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Verset 6, « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. » S'il le fait, c'est pour le Seigneur. « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu, vous rendez compte? Il le fait pour le Seigneur, il bénit le Seigneur. Est-ce que l'on peut remettre les gens en cause? Non. Parce que bon, voilà, ça suit. Au verset 15, par exemple, je reprends un peu plus loin. Il est dit ceci, mais si pour un aliment ton frère est attristé parce qu'il te voit manger quelque chose que lui ne peut pas manger, il se défend de manger dans sa conscience. Tu ne marches plus selon l'amour. Parce que là, c'est véritablement le maître mot, hein. Ne cause pas pour ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est bien dommage. C'est même terrible. Au verset 21, il est dit ceci. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Parce que du temps de Paul, quand il a écrit ça, il y a des gens qui ne voulaient pas manger de viande parce qu'elles étaient offertes, sacrifiées aux idoles. Il y avait toutes sortes de choses comme cela. Un chrétien évangélique n'irait pas prendre l'Eucharistie dans une église catholique, non? Bah, bon, c'est pas une nourriture, hein. Mais compte tenu de la doctrine, qui n'est plus une doctrine biblique, plutôt un acte magique, on va pas le faire, nous, c'est un mémorial, avec tout ce que ça peut comporter. Alors, naturellement, ça, c'est un fait cultuel, mais dans les faits de la vie courante, indifférente de la vie, eh bien, il y a toutes sortes de choses. Alors, on a parlé du manger, on a parlé des traditions, on a parlé du vêtement aussi. Alors, que de drames et que de tempêtes, hein. À travers le voile, à travers la tête couverte, la tête non couverte. Je vous en ai parlé la dernière fois quand nous sommes allés à Jérusalem, au mur des Lamentations. Moi, on m'a mis une kippa sur la tête, parce que je n'avais pas le droit de rentrer là pour aller au mur des Lamentations. Par contre, dans le quartier des femmes, le même mur des Lamentations, eh bien, les femmes n'étaient pas couvertes. Alors, c'est curieux tout ça, hein. Les uns d'une manière, les autres d'une autre et tout ça. Voilà. Dans certaines époques de notre monde, alors tout le monde, les hommes portaient des chapeaux. Moi, je suis le dernier des derniers à porter un chapeau. Enfin, non pas le dernier des derniers, il y en a d'autres. Mais c'est pour vous dire, c'est contextuel tout ça, il faut le remettre dans son cadre et ne pas faire la guerre avec ceci et cela. Les pharisiens se posaient en régisseurs, en, on pourrait dire, en directeurs de conscience d'autrui. C'est pourquoi que Jésus leur envoyait, mais alors, un message dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, parce que il faisait marcher tout le monde, mais eux, ils ne voulaient pas faire ce qu'ils demandaient aux autres. Hein. Écoutez-le, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Hein. Ah, ils leur envoyaient là véritablement quelque chose, ils étaient complètement pontois, ils ne savaient plus où ils en étaient rendus. Parce que quand vous lisez le chapitre 23 de Matthieu, c'est un véritable réquisitoire contre l'hypocrisie du pharisanisme. Parce que on s'aperçoit que leurs coutumes religieuses étaient faites pour plaire à Dieu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font quelque chose pour plaire à Dieu et ceci et cela. Mais ça ne rentre pas dans, ce sont des coutumes humaines, des habitudes. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ne redevenons pas comme eux, hein. Et ils le faisaient pour complaire à Dieu. Et c'était des êtres, lorsque l'on regardait, Jésus les avait vus, des êtres qui étaient insensibles, qui étaient sourcilieux, mais alors au millimètre près, qui étaient ennuyeux, parce que leur religion et leur vie, leur communion avec Dieu ne donnait pas envie d'être, finalement, eh bien, de s'approcher de Dieu. Mais ils étaient surtout dénués de charité. Et ils ne toléraient pas que quelqu'un ou que quelques-uns fassent autrement que eux, c'était la norme. C'était pour eux la norme. Et ils étaient des générateurs impénitent, parce qu'il ne revenait pas en arrière, hein, de critiques et d'histoires à n'en plus finir. C'est l'apôtre Paul qui dira, ils sont zélés, mais sans intelligence. Voilà. Donc l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Les forts, les faibles, liberté du fort, on va le voir, et ses limites, privilège du fort, parce qu'il peut se permettre quelque chose avec sa conscience devant Dieu. Je ne parle pas de péché, là, je parle des choses indifférentes de la vie. Et puis, les scrupules des faibles. On va parler des forts. Nous allons commencer par la responsabilité du chrétien qui est fort, enfin, réputé fort. L'exhortation, vous verrez, est beaucoup plus sévère à l'égard du fort, car sa liberté lui permet de faire le pas de rapprochement vers l'autre, que l'autre n'est pas capable de le faire. Le faible n'est pas capable, il tremble, il a peur. Il a peur de se faire rentrer dedans, excusez-moi, il a peur de se faire juger, il a peur de se faire exploser, parce que l'autre il est fort, tout simplement, vous savez comment ça se passe. Hein. Et Dieu lui demandera plus au fort de faire l'effort de se rapprocher de compréhension vers le faible. C'est au fort d'être compréhensif, bienveillant, d'aider celui qui est lié par ses craintes et ses scrupules. Et de pas se moquer de lui en haussant les épaules, t'en es encore là après des années de vie chrétienne. T'en es encore là, tu ne sais même pas prier. Je le dis, hein. Je mets des gestes. Non, mais c'est vrai. Alors, on peut pas dire que c'est vraiment la charité, hein. Le fort a moins d'excuses. Nous, si nous prétendons être forts, nous avons moins d'excuses parce que le Seigneur l'invite et le presse de faire plus d'efforts et d'aller en premier vers l'autre et de l'aider et de ne pas le juger, de ne pas juger ses trébuchements, de ne pas juger lorsque il vacille, de ne pas juger lorsque il a des scrupules, il a des craintes et que finalement on le voit tout tremblant en disant « Mais moi je crois que j'ai perdu mon salut, je crois que j'y arriverai jamais et que le Seigneur, ceci, cela, etc., etc. » Il faut les encourager, mes frères et sœurs, les petits. Petits, c'est pas péjoratif, hein. Parce que Jésus a dit qu'il accueillerait les petits. Hein. Voilà brièvement, si on prend le temps, de ce que le fort doit éviter à tout prix. Je dis bien de ce qu'il doit avoir dans la tête, et il évite à tout prix. C'est faire tort à l'âme d'autrui, de mon frère, à travers, parce que lui, il est dans sa sensibilité. Il doit être conscient que ce que lui peut faire, l'autre ne peut pas le faire, ou encore le faire. Il viendra, il deviendra peut-être un géant de la foi, mais pour l'instant, il n'en est pas capable. Je relis. Pensez à ne rien faire. Pensez, hein, c'est une conduite, c'est une question de maîtrise. Pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Un peu plus loin, il est mal à l'homme quand il mange, et on a vu ce que c'était, hein, de devenir une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Il est bien de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Tout est réuni dans ces mots. Tout est dit. En d'autres termes, nous avons besoin de porter notre réflexion aux autres si à cause de mon droit, que je considère mon droit, par l'affranchissement, par la liberté que Dieu m'a donnée, mon droit, par tout simplement, en raison de ma liberté, je ne vais pas amener mon frère ou les amener, ceux qui sont faibles, à trébucher et à pécher. Parce que je vais les scandaliser, tout simplement. Parce que mon frère et ma sœur qui est faible ne va pas supporter ce que je fais et que je peux faire en toute bonne conscience. Et je peux dire devant Dieu, mais moi si je le fais, c'est parce que je crois devant toi que je peux le faire. Naturellement. Pierre d'achoppement. Motif de conscience. La pierre d'achoppement, on le retrouve assez souvent dans la Bible, est ce qui scandalise, ce qui crée une équivoque, une dualité à l'intérieur de celui-ci ou de celui-là qui est faible. Et je provoque l'occasion d'une critique ou d'un jugement. Mais oui, parce que ça, la seule défense du faible, c'est de juger. Ah, il fait ça. Ah, donc c'est pas un chrétien. Donc c'est pas ceci et cela. Et il va y avoir de la critique, du jugement. Et à ce moment-là, je vais placer cela devant mon frère qui est plus faible, et peut-être que cela va le faire tomber. On l'a vu, hein, il y a des gens qui ne sont pas restés dans les églises, hein, ils sont partis parce qu'ils ont été scandalisés par l'effort. Ils se sont dit, ben voilà, c'est pas possible. C'est dangereux, cela. Parce que qui nous a réunis, c'est pas nous, hein, c'est pas parce que nous avons mis des prospectus dans les boîtes aux lettres et puis qu'il y en a certains qui sont venus et qui se convertissent. C'est le Seigneur qui a attiré mon frère et ma sœur. Faut jamais l'oublier, ça, hein. Mon attitude de force peut être à travers des paroles. Ça peut être à travers une attitude, ça peut être à travers des actes. C'est pourquoi nous avons l'obligation de penser, de réfléchir, de ne pas faire les choses spontanément, parce que quand on est fort, on ne réfléchit pas toujours, parce que c'est tellement naturel, c'est tellement logique, c'est tellement évident. Mais il est dit, penser, de rester attentif, à ne rien faire ou dire devant celui ou celle qui n'a pas la même foi que moi, ou qui n'en est pas arrivé au même niveau que moi. Eh oui. Pour qu'un enfant devienne un homme, il faut quand même quelques dizaines d'années, hein. Eh ben, c'est la même chose. Il y a des petits parmi nous, et ils sont honorés. Les gens qui viennent de tous horizons. Soit ils avaient un passé religieux, soit ils n'en avaient pas, ils ont vécu dans une autre atmosphère. Il faut qu'ils reprennent la vie, il faut qu'ils reprennent la vie, il faut qu'ils apprennent la vie chrétienne. Et on peut pas les bousculer. On peut pas les faire courir. les faire brutaliser dans leur conscience. Ça viendra. Parce qu'il n'est pas en mesure de le surmonter. En effet, devant l'assurance et l'usage de ma liberté, le chrétien faible est tenté d'abandonner ses béquilles. C'est quand on est nouveau converti, mais on a des béquilles, qu'on le veuille ou pas. Hein, on y est passé aussi par là. Et de dire, eh bien voilà, moi pour paraître bien, pour paraître nigo, c'est fou ça. Hein, moi je veux dire que je suis fort et je veux faire le fort. Eh ben écoutez, il risque de lâcher tout ce qui était pour lui encore un accompagnement que Dieu permettait, pour qu'il arrive à un moment à marcher tout seul. Mais s'il le fait avant le temps, il risque de tomber. Je voudrais dire quelque chose, mes frères et sœurs. Moi, ça a été mon cas quand je me suis converti pendant des années. J'ai vécu sous le régime de la loi, bien que j'étais sauvé. Conflit. Je venais de contexte catholique, conflit. Bien, mal, ceci et cela. C'était à pleurer devant le Seigneur. Et puis à un moment donné, eh ben, la loi n'était plus un pédagogue pour moi, vous savez. On est rentré par des expériences successives dans la dimension de la grâce, de la foi dans la grâce de Dieu. La libération. Béni soit le Seigneur de nous avoir donné l'Ancien Testament. Mais béni soit le Seigneur de nous donner de vivre dans le Nouveau Testament, dans la vie de l'Esprit, la grâce, etc. Parce que les problèmes de conscience, de scrupules, on peut en avoir, bien sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que ceux que j'avais il y a 40 ans en arrière, j'y pense plus aujourd'hui, hein, alors qu'ils me pourrissaient la vie. Mais c'était des choses qui étaient indifférentes, finalement, à la vie. Toutes sortes de choses comme ça. Eh oui. Parce que le faible, eh bien, va lâcher ses béquilles pour faire comme ou dire comme moi qui suis fort. Enfin, je parle pas pour moi personnellement. Alors qu'en sa conscience, il n'est pas encore en état de marche. Un enfant, il va tomber, il va courir dans tous les sens, il va trébucher, etc., etc. Il va se discipliner à un moment donné où les parents vont quand même. Et à un moment donné, il va marcher droit, c'est normal. Oui. Parce que il y a la puissance de l'imitation dans l'Église. Quelquefois, on prend tel frère ou telle sœur, parce que bon, ce sont des gens qui se sont distingués spirituellement, qui sont quelquefois, voire des géants. Et quand on est tout nouveau, on se dit, mais je voudrais être comme lui. Non, on va pas être comme lui, on va être comme Jésus. Parce que si vous prenez l'exemple d'un homme ou d'une femme, aussi spirituel soit-il, c'est pas là où il faut porter les yeux, c'est sur Jésus. Et ça, faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a des sacrées descentes avec ça, hein. Parce que si mon frère qui est faible, résultat des courses, il tombe, et s'il tombe en cherchant à imiter, c'est moi qui suis responsable et non pas lui. On lui aura indiqué une fausse voie. Donc j'aurais provoqué sa chute en quelque sorte, ou, enfin, toute proportion gardée, quelque part j'aurais été un petit peu dans l'affaire. J'aurais dû respecter, j'aurais dû tenir compte de sa faiblesse, de son âge spirituel, le rassurer ou rassurer celui qui a des scrupules et l'encourager à s'en tenir à sa conscience et non pas à la mienne, au lieu d'insister sur mes droits. J'ai raison. J'ai manqué d'un principe élémentaire, c'est la charité, et d'un sens de l'intelligence qu'avant d'être grand, il faut être petit. Avant de marcher, eh bien, on peut trébucher. Paul le dira, tout m'est permis. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Quand on sait qu'il venait du judaïsme le plus étroit, il dira, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et surtout que si c'est inutile pour mon frère, alors là, c'est autre chose. Nous jugeons, mais pensez plutôt à celui qui est à côté de vous et qui ne peut peut-être pas vous suivre. Le fort doit aussi éviter de heurter les sentiments de celui qui est plus faible en l'attristant. Ah, il y a quelquefois des règlements de compte dans les églises, eh bien, c'est la tristesse. Il arrive, le pauvre faible, le chrétien, il arrive, il est tout content, on va chanter des cantiques, on va voir des frères et des sœurs, à un moment donné, il se fait incendier. Il a eu le malheur de parler. Il a eu le malheur de dire quelque chose. Et là, il va passer là et un mauvais moment et on attriste notre frère. Verset 15. Il est simplement rappelé cette parole. Mais si pour ton aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour, là. Il est attristé, c'est le mot. Ce qui signifie que si un frère hésite, eh bien, n'hésite pas à en attrister un autre, alors à ce moment-là, il y a quand même un manque. C'est parce que ce frère qui est fort, qui attriste un faible, eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il tient plus à sa satisfaction personnelle, je parle du fort, hein, matériel, satisfaction matérielle, en ceci ou en cela, qu'à la communion fraternelle, il donnera plus de place à son ego, lui le fort, que finalement, eh bien, dans ce qui nous rassemble dans nos réunions communes, collectives, la communion fraternelle, l'amour fraternel, combien même ma conscience me donne toute liberté, si je jette le trouble dans le cœur d'autrui, ce que je crois être bien et bon devient un mal. Non pas que c'est du mal, mais c'est pour, finalement, eh bien, l'autre va le recevoir comme ça, et je vais faire mal, tout simplement. Mon manque d'amour attriste à la fois le chrétien faible que j'ébranle dans sa foi et le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Créer la tristesse de l'envie. Je peux donner par ma liberté envie à un plus faible et lui n'y arrivera pas, mais je vais créer une envie, une convoitise, tout simplement. Le fort doit éviter également, en irritant violemment, le faible. Verset 16. Parce que vous avez remarqué, il est question d'un sujet de calomnie, de scandale. Là, ça prend des proportions qui dépassent. Si mes privilèges me permettent une certaine liberté dans la grâce, qui finalement est une libération, il ne faut pas que ceci devienne une offense pour autrui et entraîne chez les autres l'irritation et la colère, car en me voyant, ils peuvent en conclure à leurs yeux que je désobéis à Dieu. Je prêterai alors le flanc, tout simplement, à la critique. Eh oui. Quelquefois, il y a des querelles entre nous. Ça passe pas seulement à une tristesse, intérieure, mais quelquefois, ça déclenche des violences, des mots. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a eu, hein? Puis attention, c'est sérieux, hein? C'est terrible une chose pareille, hein? À travers ce genre de conflit. Ma liberté sera un sujet de faire parler en mal. Je vous dis bien, de faire parler le faible en mal, parce qu'il n'a pas tout compris. Il ne connaît pas le tréfonds de mon âme et les motivations qui sont les miennes, mais il parlera en mal, le faible. Et au lieu de dire du bien, il dira du mal. Est-ce que nous avons le droit de faire dire à nos frères et des sœurs, de leur faire dire du mal en les provoquant, quelque part, et de susciter de mauvaises querelles? De toute façon, les querelles sont toujours mauvaises, hein, des polémiques. Si le fort doit s'abstenir ou même restreindre publiquement, quand il est chez lui, c'est son affaire, mais publiquement sa liberté, voici maintenant ce qu'il doit s'efforcer à faire. Versets 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Là, nous tombons dans le côté positif. Il est dit, simplement, que je retrouve, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est un drôle d'exercice quand même, la vie en église, hein. Celui qui est un chrétien sauvage, indépendant et tout ça, bah, il a pas tous ses problèmes, hein. Ça, c'est clair. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui disent, moi, je supporte pas l'église et puis je mène ma vie, en solo. C'est pas ça, hein. Parce que la véritable vocation dans laquelle nous avons, que Dieu nous a appelés, c'est de vivre en église et de contribuer à développer ensemble dans l'amour, eh bien, là, le témoignage de Jésus-Christ. Et si vous le faites en solo, bon, bah, il manquera une dimension, hein. La véritable, si Dieu nous a amenés à connaître Jésus-Christ et à vivre en Église, c'est que nous avons une vocation commune. Et nous travaillons ensemble, nous sommes des pierres vivantes, des pierres spirituelles. C'est comme ça. Alors, servir Christ. Et cela consiste à devoir quelquefois réduire notre liberté quand on sait que celle-ci peut porter atteinte à une conscience plus faible et voire la renverser. Alors, il faut le rappeler. Il s'agit non pas de questions d'ordre matériel qui intéressent les diverses manières de vivre, et non des comportements où la morale serait mise en cause. Il n'est pas question de péché, là. Sur des sujets de péché. Bon. Voilà, il y a des choses qui sont tout à fait caractérisées. La parole dit non, c'est pas bien, c'est pas non seulement bien, mais c'est un péché. Mais là, ce sont des manières d'être, des manières de vivre, des manières de penser, des motivations, etc., etc. Et là, il faut éclaircir la question, parce que faut pas se remettre en cause là où il n'y a pas. Et c'est surtout dans les choses secondaires que ça, comment on dit, que quelquefois, eh bien, ça s'échauffe dans les églises. C'est les choses, on peut les présenter de cette manière. Parce que quelqu'un pourra dire, imbu de sa force, parce qu'il est fort, mais je peux faire n'importe quoi, pourvu que je n'y vois pas le mal. C'est très relatif, hein, on peut le dire. Et tant pis pour les autres, s'ils ne sont pas contents ou ne comprennent pas, c'est leur affaire. On ne peut pas parler comme ça. Moi, je l'ai entendu, hein, quelquefois, hein, dans les églises. Je fais ceci. Bon, ils comprennent pas, bah, c'est leur affaire, hein. Moi, je m'en fiche. C'est pas comme ça qu'il faut prêter. C'est pas l'amour, hein. C'est pas l'amour. Le royaume de Dieu, dans le texte que nous avons lu, dit Paul, n'est pas le manger, le boire, mais quelque chose de plus élevé qui atteint la dimension spirituelle. C'est une autre dimension. Le royaume de Dieu, c'est pas les choses uniquement matérielles. Il est parlé de la justice, de la paix, de la joie. La justice, non pas une justice charnelle. La paix, non pas une paix charnelle, humaine. Et non pas la joie qui serait le produit de notre chair, mais vous avez remarqué, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. C'est une dimension divine. C'est pour ça que on les trouve dans les fruits de l'esprit, naturellement. Si mon cœur aspire profondément, en priorité, aux choses d'en haut, eh bien, nous allons nous apercevoir que les choses, les biens matériels et terrestres, leur jouissance, leur usage, leur profit, qui sont bons en soi parce que Dieu nous les a donnés, quand nous usons de toutes ces choses indifférentes de la vie, mais c'est Dieu qui nous les a donnés, et nous remercions le Seigneur de nous les avoir donnés, eh bien, à ce moment-là, toutes ces choses vont perdre leur valeur et je peux aisément les sacrifier pour autant que je suis qu'en en usant ou en abusant, je reste finalement, eh bien là, dans un esprit de charité. Mais je peux les sacrifier. Que j'ai une maison, que j'ai une voiture, que ceci et cela, parce que ma maison, ma voiture, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu me l'a donné pour que je puisse en jouir. Vous comprenez? Mais pas en faire une idolâtrie. Pas en faire, eh bien, un objet de dire, eh bien, voilà, oh là là, c'est quelque chose, et moi, pour ceci, pour cela, tant pis si je trouble la conscience des autres, mais je m'en séparerai pas, et je le montrerai encore devant les autres. Ce sont des choses indifférentes de la vie. Ça rentre pas en ligne de compte pour véritablement, hein, le mettre à la même, au même niveau, naturellement. Alors, je mets la foi ou la conscience du faible, de quelqu'un en danger, danger de son affaiblissement spirituel, de le décourager, le pousser à critiquer ou à juger, donc l'amener à pécher. Et ça, c'est pas le but que nous avons à atteindre les uns et les autres dans nos relations, les uns et les autres. La justice, la paix, la joie sont produits par le Saint-Esprit. Or, si je suis mûr spirituellement, donc en l'occurrence je suis fort, je donnerai les signes de cette maturité, c'est-à-dire laisser Dieu régner en moi. Et comment? De ne plus me comporter comme un chrétien charnel, avide de satisfaction personnelle et dépassant pour être heureux tout ce qui constitue les moyens de la vie, du corps et de l'âme, manger, boire, profiter, jouir, mais plutôt je mettrai en priorité la justice qui s'exprime dans ce que je donne aux autres, ce que je leur dois, parce que c'est un devoir de me comporter d'une manière charitable, de manifester de l'amour aux faibles. Ce n'est pas seulement une question de respect, mais c'est une dette d'amour que je dois à mon frère, à ma sœur qui est plus faible que moi. Une dette d'amour. Je suis redevable en raison de cela. La paix? Parce que la paix, si elle est au fond de mon cœur devant tout ce que la liberté me donne avec ses limites, eh bien la paix favorise l'édification mutuelle et non la démolition. Dans la conscience. La joie, Eh bien, c'est tout simplement le fruit d'une communion fraternelle sincère et qui unit, et non pas qui désunit. Paul ajoute qu'un tel comportement de tolérance est agréable et il est approuvé des hommes. Où là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment l'épreuve d'une maturité. Et celui qui est fort n'a pas besoin de le balancer devant tout le monde en disant « moi je suis fort ». Parce que là, c'est le meilleur moyen pour se casser la figure. Il est modeste. Il est humble comme Jésus. La véritable force, elle ne se démontre pas. Elle est pleine de tendresse. Elle est pleine de prévenance. Elle est bienfaisante. Elle dit du bien. Je termine. Paul ajoute qu'un tel comportement de tolérance, donc, est agréable et approuvé. Et en fait, c'est un devoir majeur de l'Église et entre nous. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une Église en bonne santé, c'est une Église qui est dans la paix et une Église qui est unie. Et autour de ces problèmes qui sont là, hein, et qui se doit de laisser un témoignage d'unité, de charité et non de division. Quand on a connu la division dans une Église, c'est que tout ça n'existe pas. Il y a toujours des petits malins, excusez-moi pour le mot, mais ils appartiennent peut-être à un esprit qui est malin, hein, qui sont là en jouant des coudes, qui connaissent tout, qui savent tout, et qui disent, eh bien voilà, moi pour moi, hein, c'est comme ça, ils se prennent déjà pour Dieu au milieu de la communauté. Hein. On en a vu, hein, c'est triste, hein, mais ça va jamais très loin, mais quel dégât ça fait chez les autres. Hein. Je peux vous dire que c'est terrible, c'est terrible. Combien de mesquines disputes et de controverses autour de choses secondaires, de la nourriture, de l'habillement, de l'observation de rites, de traditions qui ne sont que des manifestations extérieures, alors que le plus important reste la disposition de cœur et ses mobiles. Je reviens à l'habillement. Qu'est-ce qui nous est recommandé dans la Bible? Ce soit un habillement qui soit décent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Quelque chose qui soit décent. Maintenant, on n'a pas besoin d'être fashion avec tout ce que nous voyons en prenant l'exemple sur les top modèles et tout ça. Hein. Être bien habillé pour honorer le Seigneur. Mais moi, je dis que c'est quelque chose qui a aussi de la valeur. À moins que nous venions comme des débraillés en haillons, etc., disant « qu'est-ce que nous sommes pauvres ?» Eh oui. Mais non, moi je pense qu'il faut vivre avec son temps parce que notre temps, c'est aussi un témoignage hein, quelque part. C'est important, hein. Mais je ne juge pas. Je tiens à le dire, hein. Et on le force le quand il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Si je fais, je termine. Si je fais telle ou telle chose, quelles sont mes motivations profondes? Quelles sont mes motivations? Le souci de suivre la mode, être dans la ligne d'un courant de pensée auquel j'adhère. Nous sommes dans le monde, sans y être, hein. On est dans le monde physiquement, mais on ne l'est pas dans l'esprit, naturellement. Le désir de me singulariser, de me faire remarquer, d'attirer les regards sur moi, ou simplement d'honorer le Seigneur dans les choses qui sont tout à fait normales de la vie. Normales. Parce que Dieu regarde au cœur. Oui. Et non ce qui frappe les yeux. L'originalité. Je pense que ça existe autour de nous, hein. Si un jour je viens vers vous, et qu'un jour de, où il fait bien chaud, j'enlève ma veste, et que vous me voyez avec tous les tatouages que j'ai sur les bras, il va dire, tiens, c'est bizarre, ça. Mais, et j'en ai pas, hein. Aucun! Mais c'est pour dire que, bon, quelquefois, et c'est vrai que dans certaines églises chrétiennes, bon, voilà, il y a des choses qui peuvent choquer les autres, hein, tout simplement. Naturellement. Je termine par le verset 20-21, je le lis. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes ces choses sont pures, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bon de ne pas manger de viande, on avait parlé de viande sacrifiée, hein, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale, de faiblesse. Eh oui. Si vous allez par exemple aux États-Unis, vous verrez que, en tant que chrétien, vous dites que vous êtes chrétien évangélique et que vous cherchez à boire du vin, hein, pour certains, vous allez voir. Ah oui, ils vont être scandalisés. Ben alors à ce moment-là, faut pas en boire. Eu égard, finalement, eh bien, à la conception qu'ils ont là-bas, il faut les respecter. Hein. Par contre, on a eu quelquefois des gens qui avaient cette conception tout à fait particulière. Ils sont venus en France et ils ont vu même des pasteurs boire du vin. Et dites donc, un château Ekem, moi j'en prends tous les jours, comment ça s'appelle, Margot, château Margot, c'est pas mauvais quand même, hein. Et c'est pas pour ça, quand je sors de table, je suis dans la joie. Non, c'est une question d'équilibre, mes frères. Et c'est vrai que quelquefois, on a eu des frères qui venaient d'une autre... Et certains n'ont pas fait attention, mais alors, dites donc, en disant, c'est interdit, interdit, interdit. Enfin, voilà, c'est une question d'approche. La question se pose ainsi. Est-ce que je peux me permettre, pour une chose secondaire, matérielle, temporelle, et on pourra en rajouter, par pur égoïsme, parce que ça, il faut le dire, de risquer le bien éternel et spirituel d'une âme, de mon frère, de ma sœur, qui est faible? Est-ce que je peux? Il est dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu, parce que c'est pour celui-ci ou celle-là que Christ est mort, et la mort de Jésus, c'est une valeur éternelle. C'est incommensurable le prix, inestimable. En d'autres termes, est-ce que mon droit et ma liberté personnelle est au-dessus de l'âme de celui que je risque de choquer? Paul reconnaît qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses que Dieu nous a données, qui sont bonnes en soi, utilisables et consommables, mais en l'état de cause, en tout état de cause, que le scandale est expressément mauvais, si ça scandalise. Donc, si j'ai bien compris, je ne ferai pas ce que je veux, même si je le peux. Je ne ferai pas ce que je veux, même si je le peux, par égard pour ceux que je sais que je vais bouleverser la conscience. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Un petit peu difficile peut-être, parce qu'il faut le digérer ça, hein, mais c'est quand même des choses pratiques, et c'est véritablement une leçon d'équilibre et de perception de la vie de l'esprit, et qui met en avant la communauté des chrétiens, faible ou fort, mais qui est couronnée par cette injonction « Aimez-vous les uns les autres ». On va prier quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai que c'est un sujet difficile. Un sujet difficile qui nous amène véritablement à nous-mêmes. À nous-mêmes par rapport aux autres. Non pas regarder uniquement les autres en m'oubliant moi-même, mais Seigneur, de considérer que le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire, ce n'est pas la manière dont je m'habille, ce que je fais de mon corps, de ma vie, dans les choses qui sont naturellement, naturelles, qui ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas, en effet, Seigneur, tout cela, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la paix, et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons entendu cette parole, nous l'entendons, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il ne suffit pas de l'entendre. Aide-nous les uns et les autres, aide-moi moi-même à la vivre. Oui, Seigneur, parce qu'à ce moment-là, nous tendrons de plus en plus à ressembler à Jésus. Croyons que Jésus a été auprès des petits, auprès des faibles, de ceux qui ne comprenaient pas encore. Même ses disciples ont buté sur des choses que Jésus avait du mal à leur faire entendre. Mais ils sont devenus après des apôtres, ils ont grandi. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est un lien d'unité dans l'amour. L'Église, c'est véritablement, Seigneur, là, le lieu où les hommes et les femmes, avec leurs différences, avec leurs convictions sur le principal et l'essentiel, mais c'est aussi avec des opinions, avec des avis différents. Eh bien, tu nous l'as rappelé ce matin, que s'il y a quelqu'un qui donne notre avis, Dieu l'éclairera. Alors nous sommes tous sur cette route où nous avons besoin plus de lumière, non pas à travers des mots, non pas à travers des rhétoriques, mais nous avons besoin de cette lumière dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit. À ce moment-là, Seigneur, eh bien, nous pourrons véritablement envisager que dans le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu, mais le royaume des cieux, eh bien, il y aura une parfaite harmonie. Et toutes ces choses, Seigneur, qui divisent, toutes ces choses qui peuvent être des sujets de blessures et du même genre, eh bien, ça n'existera plus puisque nous serons tous en Jésus-Christ dans l'amour parfait. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer. Puis moi, je voudrais encore te faire cette prière parce que ça a toujours été mobile. Que l'Église cultive la paix et que véritablement nous soyons unis, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Ça, c'est l'essentiel. Et ainsi, tu seras glorifié. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.